Canalem, on aime l'été.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Aime l'été du jeudi 27 juin 2019. Louis Garon au microphone qui vous accompagne en compagnie d'Annick Filion. Bonjour Annick.
Bonjour Louis, vous allez bien?
Très bien vous-même avec ce beau soleil. Comment se plaindre?
C'est fantastique.
Oui, très bien.
On arrive ici à vélo.
Oui, à vélo comme moi. On a ça en commun. Les deux, on roule à vélo et puis on fait fi quand même des dangers, des obstacles sur les différentes pistes cyclables.
Oui.
Ben, je salue votre courage Annick Filion.
De même.
Merci. Et puis également aujourd'hui, grosse émission de ce jeudi 27 juin. Annick, on va commencer avec François Baruel, qui va être dans la prochaine demi-heure, avec qui il sera question de l'antibiothérapie. Alors, les risques que l'on encourt si on suit cette thérapie. Alors, plus de détails avec François Baruel. Et également, vous allez nous parler, Annick, d'un livre, Le liseur du 627 de Jean-Paul Didier-Laurent.
Oui, c'est un livre que j'ai adoré. Je vous en lis un petit extrait.
En plus, ça, c'est
gentil. On va avoir une idée, une atmosphère. Et je vous parle aussi d'une initiative de liseurs publics à Montréal.
Ah oui, bien écoutez, voilà qui est très, très intriguant et très intéressant. Comme vous dites, vous allez lire un extrait. Alors, gardez les oreilles bien ouvertes, chers auditeurs. Également, vous allez nous parler d'un athlète paraplégique.
Oui, alors on va recevoir Jimmy Pelletier au téléphone qui est en train de faire, c'est un athlète paraplégique cycliste, cycliste comme nous, mais
comme
bon.
Comme nous, oui, voyez, c'est voilà. tout est dans tout. Hein.
Mais on ne fait pas Montréal, on ne fait pas Vancouver, on ne traverse pas le Canada.
Non,
lui, c'est ce qu'il fait. Alors, il en est à sa 5e édition de la randonnée Jimmy Pelletier. Et on a bien hâte d'en entendre parler.
On va saluer également, on va profiter pour saluer son courage et sa ténacité. Également, comme à tous les jeudis, chers auditeurs, nous allons vous proposer une chronique spiritualité, ésotérisme et pensée positive avec Emmanuel Robitaille. Ça va être dans la dernière demi-heure de l'émission. Et également, une habituée de Canalem qui sera avec nous.
Ben oui, on reçoit Claudie Lseille. Donc, c'est l'animatrice de l'émission des livres plein les oreilles. Et elle nous fait une chronique de livres audio d'été. Alors, elle nous fait deux suggestions de livres à écouter, « La vie secrète des écrivains » de Guillaume Musso, ainsi que « Blanc mortel » de Robert Galbraith.
Alors, restez...
J'ai hâte d'avoir plus de nouvelles.
Oui, restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission de « Aime l'été » du jeudi 27 juin. Dans quelques minutes, on va s'entretenir avec le journaliste Charles-Édouard Carrier, qui nous donne 5 trucs pour déménager vert cette année.
Le plafond me tombe en mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi, y voir, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort, si on veut pas rester dehors. C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varathane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac, ça sert à rien de laver le plancher, la poussière esprit dans les crânes. J'ai de l'air mal propre à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. C'est bien trop grand, un 8,5 depuis qu'il y a des enfants de partie. Quand on a des pièces à rien faire, on vient qu'on se sent étrangère. Puis y a toute l'huile qu'on brûle pour ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le stéréo de la gang d'en haut est toujours ouvert au coton. Plus il est tard, plus c'est écho. S'enterre ma télévision. Plus ça joue fort, plus ils aiment ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Ils ont démoli de lourds bords de la rue pour faire un bloc bloc appartement. C'était plein d'art, viens, reste plus, sont morts étouffés dans le ciment. Sa bouche l'a vu à part de sang. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le voisin faisait des colères quand mes deux chats, à l'occasion, creusaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Mais on a trois grands lavabos et des choses si grands comme la porte. Moi, on est voisins du métro. Ça va bien quand il faut qu'on sorte. Mais on paye pas pour la taxe d'eau, seulement l'hydro puis le téléphone. Mais le chauffage fait pas défaut, tous les calorifères fonctionnent. Mais on a beaucoup trop d'affaires pour s'en aller dans un cocon. Mais l'été, j'aime ça, prendre l'air, tranquille, tout seul sur mon balcon. Peut-être qu'ailleurs, j'aimerais moins ça. Je sais pas si je déménager ou rester là.
Pauline Julien avec un grand classique, déménager ou rester là. Moi, cette année, j'ai décidé de rester là et de pas déménager. J'ai déménagé l'année dernière et je trouve que les déménagements, c'est très, très dur, non seulement physiquement, mais mentalement. Et aujourd'hui, on a un invité, Charles-Édouard Carrier, Annick, qui nous donne 5 trucs pour déménager vert. Hein? Ça se dit pas très bien, mais parce qu'on sait que l'environnement, l'écologie, c'est un sujet au goût du jour présentement qui préoccupe beaucoup de gens. Et Charles-Édouard Carrier nous donne 5 petits trucs. Bonjour, Charles-Édouard Carrier.
Bonjour, ça va bien?
Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré, premièrement, ces petits trucs? C'était dur de trouver ces petits trucs pour déménager
en fait,
vous
non.
Les aviez déjà?
Non, c'est pas difficile. C'est sûr que quand on pense déménagement, initialement... Lorsqu'on pense aux gros camions, on pense aux boîtes, on pense à tout le papier d'emballage et tout ça. Il n'y a rien dans ça qui sonne très, très pour l'environnement du tout. Donc, c'est de voir un petit peu justement comment on peut se prendre et comment on peut essayer de trouver des façons simples d'au moins limiter un petit peu là, justement,
son empreinte environnementale en déménageant. Bon, on commence par une partie lourde quand même, les fameux encombrants. Alors ça, c'est souvent les électroménagers de grosse taille qui ne servent plus, notamment, bon, on parle des réfrigérateurs, des barbecues, des causeuses, des matelas. Comment on fait pour s'en débarrasser? Parce que il faut prévoir avec la ville. Parce que
c'est un excellent point. Faut effectivement prévoir. Puis ça, c'est dans le cadre du texte. Alors, j'ai parlé avec Camille Gagné-Rénaud, qui était de Équiterre. Elle me parlait de hit and run environnemental. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'elle disait lorsque les gens déménagent, on va se retrouver des fois avec justement tous ces encombrants-là sur le bord du chemin. Les gens disparaissent. Puis on ne sait pas trop ça appartient à qui. Alors là,
souvent, on n'a pas laissé le frigo en face de la nouvelle
adresse. Non, c'est ça. On se tasse un petit peu. Mais donc, c'est la planification parce que, bon, les villes ont souvent des programmes en place pour récupérer ces gros... Par exemple, on parle de mobilier, entre autres. Mais c'est pas immédiat. Hein. C'est pas en appelant, j'ai mis mon fauteuil sur le trottoir pour vous passer le ramasser. Souvent, ça va prendre 3, 4, 5 jours, des fois, avant qu'on puisse envoyer un camion pour le prendre. Donc, il faut le planifier. Mais il faut aussi penser à donner une deuxième vie à ces objets-là parce que, si ça ne correspond pas au prochain décor, au prochain salon, prochaine cuisine, ça peut très bien faire pour quelqu'un d'autre, par contre. Et là, encore là, il faut prévoir si on veut l'annoncer sur Kijiji, si on veut le mettre, par exemple, sur différentes plateformes de dons sur Facebook qui existent. À ce moment-là, il faut le prévoir d'avance aussi.
Pour les frigos, on a une bonne nouvelle dernièrement puisqu'on a appris que la compagnie Corbeil, on ne veut pas faire de publicité pour eux parce qu'ils ne sont pas commanditaires à MLT, Annick, mais peut-être un jour. mais eux, ils ont décidé de ramasser des vieux frigos, et puis les envoyer à la compagnie Pure Sfera qui est à Bécancourt, qui s'occupe de... Parce que les frigos à l'intérieur des réfrigérateurs, il y a un gaz qui est très, très nocif pour les gaz à effet de serre.
Le frion,
exactement.
Voilà.
Oui, et ça, c'est une excellente chose parce que, on les voit souvent passer, là, les ferrailleurs à ce temps-ci de l'année, là, ils vont arpenter les rues pour récupérer tous ces éléments-là, mais c'est sûr que lorsqu'on envoie ça chez le ferrailleur, on peut avoir des doutes là, concernant la façon avec laquelle on va gérer les gaz. Donc, Corbeil offre ce service-là. Il y a plusieurs entreprises aussi, lorsqu'on achète des électros neufs, qui vont offrir le service de ramassage en même temps. Donc, si on profite de déménagement pour refaire donc son stock d'électro, souvent les entreprises, les commerçants vont pouvoir offrir de ramener les vieux électro aussi.
Mais M. Carrier, vous nous disiez de planifier tout ça. Mais c'est souvent, si on veut penser environnement, souvent, on parlait de mettre ça sur Kijiji ou quoi que ce soit. Ouais. Souvent, c'est beaucoup plus de troubles que la balance financière. Alors, j'ai l'impression, moi, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est plutôt que justement qu'on pense à l'environnement plus que le niveau pécunier de la chose, parce que tout le trouble de mettre ça sur Kijiji, que les gens viennent voir, etc. Je pense qu'il faut penser plus global, non?
Absolument. Je pense qu'il faut effectivement faut le faire pour les bonnes raisons. Puis c'est vrai qu'il y en a que simplement parce que bon, on n'a pas de temps à consacrer nécessairement à toutes ces mises en vente là sur les annonces classées sur Internet. On va abandonner, puis on va tout simplement les laisser au chemin. Mais effectivement, je pense qu'à la base, il faut avoir la motivation et le désir de le faire pour la bonne cause.
Oui, puis de toute façon, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous, Nick. Mettre sur Kijiji, c'est pas toujours évident et c'est pas la première personne qui va s'intéresser à vos produits qui va nécessairement l'acheter. Ça peut être très, très long.
Oui, puis surtout qu'en déménageant, on n'a pas le temps de commencer à gérer. On est dans un bois, de commencer à gérer des je passe dans deux heures, voir ton divan, là, c'est pas
la priorité.
Non.
Surtout pour le prix qu'on va le payer, on va le négocier.
Exact,
en plus de ça,
oui, c'est ça.
Là, on parle de l'emballage, hein, le fameux emballage, surtout quand c'est de la fameuse vaisselle, hein, on ne veut pas la casser, et puis ça nécessite beaucoup d'emballage. Alors, où trouve-t-on de l'emballage vert?
Bon, en fait, y a encore là, c'est de la réutilisation. Ouais. C'est ça le mot-clé lorsqu'on parle d'emballage. Bon, premièrement, il y a les boîtes. Donc, les boîtes en tant que telles, on peut les trouver chez des commerçants. Ça peut être à la SAQ, entre autres, on a des boîtes. Dans les épiciers, des fois, peuvent avoir des boîtes. Ça peut être de voir aussi autour de nous. Moi, j'ai déménagé il y a quelques semaines et j'ai gardé toutes mes boîtes. J'ai déjà deux personnes qui vont les reprendre parce qu'eux en ont besoin dans les prochains jours.
Fait
qu'on peut voir
autour
de nous.
Vous les avez pas vendus, vous les avez donnés.
Donnés. Ah. Pas sur Kijiji. Donc, ça, c'est une chose pour ce qui est des boîtes. Maintenant, lorsqu'on parle d'emballage, on peut se servir, par exemple, du linge, on peut se servir des rideaux, on peut prendre tout ce qui est la literie, par exemple, pour emballer justement la vaisselle, les bibelots, ces trucs-là. Puis lorsqu'on parle d'emballage, bien, il y a aussi le fameux matelas. C'est évident qu'on veut le protéger lors du transport, lors des déplacements, mais on peut regarder. Des fois, on a un vieux, deux, trois vieux draps contours qu'on n'utilise plus, qui sont bons pour faire de la peinture. Mm-hmm. Bien, on peut envelopper le matelas avec ça.
Oui, inventif et créatif. Au lieu de prendre
la grande enveloppe plastique, il y a des façons de le faire avec ce qu'on a sous la main.
Une fois qu'on a tout emballé, on est prêt à déménager, il y a le choix du camion qui est très important. Il faut bien évaluer la capacité du camion pour la quantité qu'on a à transporter.
Et je dirais que c'est presque l'étape la plus difficile parce qu'on a tellement l'impression que...
Ça nous prend un gros camion. Hein?
Ben oui, c'est ça. D'un, on veut être sûr parce qu'on se dit « Ah, je pense que j'ai pas tant de stock que ça », mais non, finalement, c'est surprenant qu'on mette tout ça dans des boîtes. Et là, ben, on veut jouer prudemment. Donc, on va se dire « Ben, je suis pas sûr entre 16 pieds ou 20 pieds, je vais prendre 26, je vais être sûr que je vais avoir assez de place ». Mais de deux, il faut savoir qu'un camion qui n'est pas rempli au complet, il faut faire attention parce que le matériel ne sera pas nécessairement sécurisé. Ça peut bouger dans le camion. Mm-hmm. Mais deuxièmement, c'est sûr que si on prend un camion qui est trop grand, ben là, on va se retrouver avec justement consommation d'essence qui va être augmentée inutilement. Donc ça peut être une chose. Essayer de voir avec des spécialistes. Écoutez, moi, j'ai ça, faire une évaluation juste de ce qu'on a. Les entreprises, par exemple, de location de camions sont assez au fait de ce que ça peut prendre. Si on leur dit un 3,5, ils vont dire ben 3,5, on parle de telle grandeur de camion, etc. Et l'autre chose aussi qu'on peut voir, c'est de partager les camions. Ça se fait, ça aussi. Quand c'est des déménagements locaux, on peut voir avec d'autres personnes. On peut se prendre... Si c'est des petites quantités de matériel à déménager, on peut regarder avec d'autres personnes si on ne pourrait pas partager un camion.
Et moi, j'ai constaté que lorsqu'on déménage, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Annick, mais c'est une excellente façon de revoir qu'est-ce qu'on a de besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin et de faire le...
Oui, la simplicité volontaire ou semi-volontaire.
Oui, on parle ça de la décroissance.
Exactement.
Décroissance. Et le fameux jour J, Charles-Édouard Carrier, il faut quand même prendre certaines précautions parce qu'en ce moment, il fait très chaud. Il y a la canicule en Europe, mais plus souvent qu'autrement, le 1er juillet, il y a tendance à faire chaud. Il faut faire attention.
Exactement. Et lorsqu'on arrive justement à cette étape-là, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bouteilles d'eau. Il va falloir qu'on s'hydrate, il va falloir qu'on mange, il va falloir qu'on ait de la vaisselle pour manger tout ça. Et la fameuse pizza de la fin de la journée, hein, on essaie de pas la manger.
Sans pizza, c'est dur d'avoir du monde pour venir.
C'est ça, exactement. Donc, il faut penser justement à avoir tout ça sous la main. Ce qu'on va recommander, recommander aux gens, c'est par exemple de se faire une ou deux boîtes, ce qu'on appelle un espèce de kit de survie, mm-hmm. dans lesquelles on aura justement un petit peu de vaisselle pour les deux premiers jours, pour éviter justement d'avoir à utiliser des ustensiles en plastique, par exemple, des assiettes en carton. Et évidemment, bon, on va se préparer des collations, on va se préparer des bouteilles d'eau froide, etc. Donc, pour qu'on n'ait pas besoin d'aller vers du plastique à usage unique pendant la journée du déménagement et les jours suivants, parce que c'est pas rare qu'on va manger du restaurant là, pendant deux, trois jours, le temps qu'on s'installe. Mm-hmm. C'est facile de justement prendre avec la livraison un ensemble d'ustensiles, assiettes et cartons, tout ça. Mais si on l'a préparé d'avance, ça nous évite d'avoir à passer par là.
Ben écoutez, déjà, pour les gens qui ont à déménager, j'espère que vous êtes rassurés. Hein? Puis c'est les gens qui voulaient minimiser leur empreinte écologique. On vous a donné quelques trucs ce matin.
Peut-être juste une dernière chose rapidement que je voudrais ajouter. C'est possible maintenant de louer des bacs. C'est quand même assez récent, c'est pas très connu.
Des bacs en plastique.
Oui, donc au lieu de prendre des boîtes, on peut, il y a des compagnies qui font ça, en fait, qui permettent de louer des bacs. Ils viennent vous porter les bacs chez vous quelques jours avant, là, avant le déménagement. Vous faites votre emballage, c'est des bacs qui sont rigides, facilement empilables. Ouais. Ça simplifie beaucoup le chargement du camion.
C'est surprenant la quantité de choses qu'on peut mettre dans un bac de
plastique. Puis quand c'est terminé, ils reviennent ramasser les bacs et là, on a fait zéro déchet avec nos boîtes.
Et j'imagine que c'est bien pensé aussi pour ne pas transporter des petites bestioles qu'on ne veut pas partager avec tout le monde. J'imagine que les bacs, c'est bien pensé.
Oui, effectivement.
Gardez les indésirables là où ils sont.
C'est ça.
Ben, Charles-Édouard Carrier, merci beaucoup sur ces très beaux petits trucs. 5 trucs pour déménager vert. Alors, si vous voulez en savoir davantage, sachez que c'est le titre de l'article publié dans lapresse.ca et qui est signé Charles-Édouard Carrier, notre invité ce matin. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation. Au revoir.
Yo, yo, tout le monde, oh yeah! Durabac, ça c'est pour mon mal de dos.
Durabac, ça c'est pour mon mal de dos.
Durabac, tu sais, pour mon rhume de cerveau. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule.
Durabic, tu sais, pour mon rhume de cerveau.
Durabic, tu sais, pour mon rhume de cerveau.
De l'antiflogestine pour mon lumbago. Ho!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Pour mon lumbago.
Un peu de ginseng pour ma libido.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Pour ma libido.
Et puis du ginseng pour ma libido.
Puis du Viagra pour me remonter le moineau.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Pour
marmotter le moineau.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Parce que je fume ben trop.
De la nicorette parce que je fume ben
trop. Avec tout ça dans le corps.
Avec tout ça dans le corps.
j'amour repotito.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade, y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection, y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Okay.
Y'a rien de mieux, fiston.
Alors, c'était Remède miracle de mes aïeux, un sujet pied nommé pour accueillir François Baruel. Alors, Louis?
Oui, à la chronique santé, parce qu'on va recevoir François à chaque jeudi pour une chronique santé. Et cette semaine, pour votre première chronique, François, vous nous parlez des risques de l'antibiothérapie au long cours. Avant de commencer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que l'antibiothérapie?
L'antibiothérapie, c'est la prise de médicaments, soit par la bouche, soit par en intraveineuse, qui inhibe la croissance des germes. C'est lorsque l'immunité est dépassée par les bactéries, principalement.
Et d'où vient un peu cette pratique? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est une
Ça a été découvert en 1920, hein, les antibiotiques. L'antibiothérapie au long cours.
Ouais.
L'antibiothérapie au long cours a été créée pratiquement, est apparue très peu de temps après l'antibiothérapie, l'invention des antibiotiques. Ça a été créé très peu de temps après. Il ne faut pas oublier que les antibiotiques, c'est aussi les antituberculeux. Donc là, il est licite de donner des antibiotiques pendant 18 mois. Mais c'est peut-être le seul cas. Et c'est cet exemple-là qui a fait qu'on a pu traiter les tuberculoses avec des antibiotiques dès le début, grâce à des associations, au début avec un seul antibiotique, puis ensuite avec des associations, pendant 18 mois, et on a pris l'habitude de donner beaucoup d'antibiotiques à partir de ce moment-là.
Et quand vous dites au long cours, c'est sur une longue période, c'est ça?
C'est à partir de un mois, c'est déjà, ça commence à être au long cours, parce que on a déjà sélectionné énormément de germes. Au bout de 4 semaines, on a soit sélectionné les germes les plus résistants, c'est-à-dire qu'on a tué tous les germes qui sont sensibles aux antibiotiques, ou bien alors on les a fait muter, et ils sont devenus résistants. Et ensuite, on peut très bien avoir une prolifération, si l'immunité est un peu abaissée, on peut avoir une prolifération des germes qui sont résistants et se trouver avec une décharge de ces germes dans le sang, ce qui donne une septicémie.
Ah oui, c'est parce qu'en fait, cette consommation massive, en fait, d'antibiotiques réduit un peu au niveau le système immunitaire, affecte le système immunitaire, on est moins capable de se défendre contre les
bactéries. C'est parce qu'on est moins capable de se défendre, c'est parce qu'on n'est pas totalement capable de se défendre rapidement, sans dégâts collatéraux, disons. Imaginons une otite. Une otite qui dure très très longtemps chez les enfants peut se manifester et se compliquer d'une certaine surdité. Donc on donne des antibiotiques pour éviter ça, justement. Mais il ne faut pas les donner très longtemps, parce que ça masque.
Et qu'est-ce qui motive les médecins à prescrire des antibiotiques sur une longue période?
Parce qu'en fait, on n'arrive pas à soigner. C'est tout simplement, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, on n'arrive pas à guérir le patient. Donc le patient dit, bah non docteur, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux oreilles, etc. Donc on va recommencer encore une semaine et puis on verra. Et très souvent, c'est que ça masque le principal des choses. Très souvent, enfin, je me souviens de cas où il s'agissait en fait d'une infection d'un disque intervertébral. Alors les germes étaient présents, ils étaient bien encapsulés, tranquillement encapsulés, et ils n'étaient pas atteints par les antibiotiques, ou très peu. Du coup, ils restaient là, vivants, résistants aux antibiotiques. Alors ils ne se développaient pas trop quand même, mais c'était ce qu'on appelle térébrant, c'est-à-dire en fait ça creuse, et ça continue, ça attaque. C'est résolu. Par un drainage, une intervention chirurgicale pour drainer les choses, en fait.
Alors, c'est les risques qui sont encourus. Alors, on en a effleuré en partie, là, mais quels sont les principaux risques qui sont associés à l'antibiothérapie au long cours?
Le principal risque, c'est de passer à côté d'une vraie maladie. On a vu des maladies genre la sclérose latérale amyotrophique qui se manifestaient avec des troubles très variés, des arthralgies, des troubles cognitifs, des choses comme ça. Et un peu vague. Donc on s'est dit c'est une infection, il y avait de la fièvre. C'est une infection. Et puis en fait, le patient, il a traîné comme ça pendant un an et demi. Et en fait, c'était une sclérose latérale amyotrophique. Il est mort de ça.
Et on n'a pas été en mesure, on n'est pas été en mesure de la diagnostiquer en raison, on est allé vers... Est-ce que c'est aller vers la facilité, si je comprends bien?
C'est exactement ça. C'est un peu ça. C'est comme
on
dire...
On ne prend pas assez de temps avec son patient, c'est... on ne l'interroge pas assez, on pose le diagnostic facile.
C'est le diagnostic facile, statistique le plus rapide. Et c'est vrai qu'on peut passer à côté d'un diagnostic si on se dit, c'est, bon, ça c'est statistiquement, c'est ça, etc. Mm-hmm. Et si ça ne colle pas parfaitement, oh ben, ça doit être ça quand même, et puis on teste un peu. Mais c'est vrai que c'est un... En fait, c'est un manque de recherche, en réalité. Mm-hmm. Et quand on voit d'ailleurs un traitement qui ne marche pas sous antibiotiques au bout de 2 semaines ou 3 semaines, mm-hmm. Il faut faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'antibiothérapie et voir ce qui se passe.
Mais en tant que patient, là... Quand on va chez notre médecin et il nous donne un antibiotique, souvent même à la pharmacie, ils nous disent, et ils nous le répètent, on doit le prendre jusqu'à la fin. Donc, on essaie de suivre ce qui nous est dit, parce qu'en tant que non-médecin, là, on ne peut pas savoir. Donc, et quand vous parlez de si on voit que ça ne fonctionne pas, donc est-ce qu'il faut quand même y aller jusqu'à la fin?
Les antibiotiques, il faut leur donner un peu de temps. Par exemple, on a une angine à bactéries. Mm-hmm. À ce moment-là, il faut lui laisser 3-4 jours pour agir réellement. Quand c'est vraiment bien installé, c'est parfois un peu long. Mais ça prend une semaine. Et puis, c'est tout. Mais il faut prendre pendant une semaine. Parce que si on ne prend pas pendant une semaine, on va sélectionner, on va tuer les plus faibles et on va garder les plus forts. Mm-hmm. C'est tout simplement ça, en fait. Hein. Il vaut mieux taper fort et relativement court, c'est-à-dire une semaine, plutôt que donner à dose homéopathique des antibiotiques. Je caricature. Mais c'est vrai qu'il y a des traitements. En pédiatrie, j'ai vu des enfants qui étaient traités pour des otites avec des antibiotiques, des tétracyclines qui, en plus, font des taches sur les dents. Enfin, c'était pas très beau à voir. Et c'était classique à l'époque. Pour des otites chroniques, ils étaient traités pendant des mois et des mois et des mois. Erreur fondamentale.
Oui, et comme disait Annick...
c'est pas leur faute. Hein.
Lorsqu'on va voir
qu'on faisait autrefois.
Non, mais lorsqu'on va voir son médecin, et puis comme patient, on fait énormément confiance à notre médecin. Puis on n'ose pas non plus contredire le diagnostic ou contredire... écoutez, ça ressemble à de l'antibiothérapie. Monsieur le docteur, est-ce que, y a-t-il d'autres alternatives? Parce que je ne suis pas nécessairement enclin à aller vers cette voie-là. Est-ce qu'on peut dire à son médecin... non, je ne veux pas faire d'antibiothérapie, je connais les risques et tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur Google ou à gauche, à droite, pour avoir l'information, qui arrivent déjà informés lorsqu'ils se présentent devant leur médecin.
S'il n'y a pas de risque immédiat, de risque vital, en effet, on peut très bien surseoir à l'antibiothérapie en gardant à l'esprit que s'il y a une aggravation, il faut y passer quand même.
Ouais.
Simplement, il faut faire confiance à son médecin. C'est sûr que c'est évident. Rares sont les médecins, j'en connais pas beaucoup, des médecins qui prescrivent au long cours des antibiotiques.
Peut-être voir au niveau de la formation, par exemple,
l'information que nous recevons et les directives que nous recevons mondialement, je dis bien c'est mondial, les directives que nous recevons mondialement, c'est maximum 28 jours d'antibiotiques.
Ah, c'est bien à savoir.
Hein? Bon.
Mais je pense qu'on peut reparler plus tard, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on va continuer parce que c'est un sujet fort d'actualité qui a été parlé dernièrement, par exemple, par la journaliste Isabelle Haché de La Presse qui a écrit 2 papiers sur Amir Kadir et la façon dont, bien sûr, il traitait les gens aux prises avec la maladie de Lyme. On se quitte pour quelques minutes et on vous revient pour la suite de cette édition de Aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien. J'aime lire, mais non, je la laisserai là, cachetée, silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire. Histoire de... de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire des noms, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée silencieuse.
On écoutait Albin de la Simone et sa chanson « J'aime lire ».
Et Albin de la Simone que j'ai confondu avec Philémon Simon. La voix que vous venez d'entendre, c'est bien sûr Mathieu Tessier, le metteur en ondes, technicien et directeur musical de la station Canal M. Il est midi 4 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de M l'été. Louis Garon en compagnie d'Annick Fillion. Et Annick, là, vous nous parlez lecture plus précisément d'un livre, « Le liseur du 627 » de Jean-Paul Didier-Laurent, dont nous aurons bien sûr la chance d'écouter un extrait que vous allez lire.
Oui, j'aimerais vous présenter ce livre parce que je crois que c'est l'exemple parfait à l'intérieur d'un roman de la lecture publique, d'amener les livres à l'extérieur. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien vous lire un extrait pour mettre la table.
On vous écoute.
La rame vint s'immobiliser contre le quai en crissant de tous ses freins. Guilin s'arracha à la ligne blanche et escalada le marchepied. Les trois strapontins à droite de la porte l'attendaient. Il préférait la dureté de l'abaton orangé au moelleux des banquettes. Avec le temps, le strapontin avait fini par faire partie du rituel. L'acte d'abaisser son assise avait quelque chose de symbolique qui le rassurait. Alors que le wagon s'ébranlait, il tirait de la serviette de cuir qui ne le quittait jamais la chemise cartonnée. Il l'entrouvrit avec précaution et exhuma d'entre les deux buvards roses bonbons qui s'y trouvaient un premier feuillet. La pelure à demi déchirée et rognée dans son angle supérieur gauche pendouillait entre ses doigts. C'était une page de livre format 13 par 20. Le jeune homme l'examina un temps avant de la reposer sur le papier buvard. Peu à peu, le silence se fit dans la rame. Parfois, des « chut » réprobateurs retentissaient pour faire taire les quelques conversations qui peinaient à s'éteindre. Alors, comme tous les matins, après un dernier raclement de gorge, Guilin se mit à lire à haute voix. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embuées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupées çà et là de silences dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur. Ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres, sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recette de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier Goncourt, un paragraphe de roman policier succédé à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guilin. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée, et à chaque fois, la magie opérait. Les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement. Il l'étouffait à l'approche de l'usine. Sans même relever la tête, Guilain saisit avec soin un deuxième feuillet. Le jeune homme éplucha des yeux la douzaine de feuillets exhumés de sa serviette jusqu'à ce que le RER arrive en gare, tandis que s'évanouissait sur son palais l'empreinte des derniers mots prononcés. Il contempla, pour la première fois depuis son entrée dans la rame, les autres voyageurs. Comme souvent, il découvrit sur les visages de la déception, voire de la tristesse. Ça ne dura que le temps d'un ébrouement. Le wagon se vida rapidement. Il se leva à son tour. Le strapontin émit un claquement sec en se repliant sur lui-même. Clap de fin. Une femme, entre deux âges, lui glissa un « merci » discret à l'oreille. Guilain lui sourit. Comment leur expliquer qu'il ne faisait pas ça pour eux? Il quitta avec résignation la tiédeur du wagon, abandonnant derrière lui les pages du jour. Il aimait les savoirs-là, douillettement glissés entre l'assise et le dossier du strapontin, loin du fracas destructeur auquel ils avaient échappé. Dehors, la pluie avait redoublé de violence. À l'approche de l'usine, malgré les ans, la nausée lui revenait toujours à l'assaut de sa gorge, à la vue de l'immense mur d'enceinte sale et décrépit. Derrière, se tairait la chose, bien à l'abri des regards, la chose qui l'attendait.
Très beau. Écoutez, c'est dur de revenir de ça indemne, hein? Que l'ambiance sonore et tout ça, c'était très, très beau. Vous devriez faire ça pour gagner votre vie, Annick Fignon, parce que je trouve que vous avez une très, très belle voix.
Et écoutez, Jean-Paul Didier Laurent a vraiment mis la table pour ce texte. Alors, c'est un homme qui lit à chaque jour dans le train. Et la chose... Ce n'est pas un divulgateur, là, je vous le dis, parce que je ne vais pas vous laisser là, comme ça
en pan,
sur une patte. Ouais. La chose, c'est il travaille dans une usine où ils détruisent les livres qui sont invendus. Mmh. Et donc, c'est un homme, un travailleur d'usine qui aime lire et qui récupère et qui fait le parallèle entre... pour lui, les livres, c'est comme des humains, c'est des histoires. Alors, chaque page qu'il récupère, c'est comme des parties d'âme qu'il récupère.
Et dont il s'alimente.
Exactement. Mm-hmm.
Et on rappelle l'extrait du livre que vous venez de nous proposer. C'est « Le liseur du 627 » de Jean-Paul Didier Laurent. Et si je comprends bien, il y a des personnes qui lisent également, qui font le même travail que vous, à Montréal, pour les gens qui voudraient lire peut-être, qui voudraient entendre ces lecteurs.
Qui voudraient entendre. Alors, il y a une brigade, la brigade des liseurs publics, qui est chapeautée par Olivier Courtois et qui se promène dans Hochelaga-Maisonneuve et qui vont le faire pendant tout l'été. Oui. Et c'est des gens bénévoles qui vont lire des parties de livres, un peu comme notre liseur ici dans le livre, et qui amène dans un quartier peut-être un peu moins favorisé la lecture à voix haute. Et ils offrent ensuite le livre à ceux à qui ils l'auront lu. Mm-hmm. Alors, c'est des lectures un peu plus un à un, où une personne qui lit avec deux, trois personnes qui écoutent, et ça se passe dans les parcs, dans des organismes...
Et on peut avoir l'information pour les gens qui sont intéressés, qui habitent dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et qui voudraient assister à tout le moins par pure curiosité ou par passion de la lecture aussi.
Eh bien, il y a la page Facebook, donc Brigade des liseurs publics.
Et on a l'horaire des endroits et des lecteurs qui
sont sur... On peut rejoindre M. Courtois comme ça. Okay. Et ensuite, c'est ça. Et c'est en collaboration avec la CSDM, la Commission scolaire de Montréal. Et donc, ils offrent ensuite des livres neufs. Ce n'est même pas des livres usagés, des livres neufs à la personne pour l'extrait qu'elle a entendu. Oui. Donc, il y a une possibilité de poursuivre la lecture. Et donc, c'est de donner un peu le goût, une saveur et
je trouve que c'est une très, très belle initiative parce que la lecture, en fait, souvent, on en néglige. Puis moi, j'aimerais ça, je lis un peu, j'aimerais ça lire davantage. Mais c'est fou, lorsqu'on embarque dans l'histoire d'un livre, comment on est absorbé et comment on plonge dans un univers qui nous fait tellement bien. Et lorsqu'on en ressort... On a l'impression qu'on s'est évadé, puis on en sort mieux, je trouve qu'on en sort mieux alimenté, non seulement au niveau de notre connaissance, mais au niveau de notre esprit, on a comme libéré quelque chose qui nous fait excessivement de bien.
Et en plus, on a une on se rapproche d'un personnage qui devient des fois notre ami. Mm-hmm. Moi, ce liseur public, ouais, j'aurais aimé le connaître,
maître,
j'aurais aimé,
hein,
pouvoir
lui poser
m'asseoir
des questions,
dans le train, poser des questions.
Mais en tout cas, vous lui avez rendu un très, très bel hommage parce que vous avez très, très bien lu. Et c'était fort agréable. Et je tiens à vous remercier pour les effets sonores. J'espère, chers auditeurs, que vous avez pu, bien sûr, pénétrer davantage dans l'univers de ce liseur. Merci beaucoup, Alec Fignon.
Merci, Louis.
C'était Orchestra Baobab qui nous chantait la chanson Aline.
On parle maintenant d'un para-athlète, ou d'un athlète qui, quand même, qui mérite toute notre admiration. Il s'appelle Jimmy Pelletier, Annick. Il arrive en sol québécois, mais après avoir parcouru quand même des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à nous, puisqu'il a quitté Vancouver. Et on le rejoint à Saint-Jean-sur-Richelieu, où débute la première étape de cette cinquième édition de la randonnée. Jimmy Pelletier. Bonjour, M. Pelletier.
Oui, bonjour.
Ah, Monsieur Pelletier, vous n'êtes pas trop fatigué, là?
Non, ça va, sincèrement, ça va super bien.
Oui, vous nous avez amené le soleil, hein? C'est pas une mauvaise chose.
Ben oui, puis c'est sûr, nous on est parti le 7 mai de Vancouver.
Oui.
Puis nous autres, dans le fond, là, la traversée du Canada, c'est 6200 km en 67 jours.
Mm-hmm.
Fait que là, on en a proche de 5300 km déjà de parcouru. Fait que ça va super bien.
Bon, ben c'est merveilleux, on est très heureux pour vous.
Pas trop d'ampoule?
Non, tout est correct, mes mains, même mon corps, là, les bras, les épaules. On a une équipe, hein. Il y a 7 cyclistes qui m'accompagnent, mais on a 4 Winnebago, puis là-dedans, mais on a un physio et un masso. Fait que à chaque jour, là, je me fais masser, puis ça va super bien, puis... On est vraiment contents, là.
Oui, mais c'est une... Oui, allez-y, Annick.
Ben écoutez, je voulais juste savoir, parce que vous êtes parti quand même de Vancouver, là, juste pour, oui. Pour reculer un peu dans le temps. Mais d'où... Je voyais que vous avez commencé en 2014 d'autres événements. D'où est partie cette idée-là de traverser le Canada en vélo... comment on dit ça? En vélo à main?
Oui, c'est ça, oui, à vélo à main. Ça a commencé que quand j'ai rencontré ma blonde, voilà plusieurs années, son rêve c'était de traverser le Canada. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser le Canada, mais on va ramasser des fonds aussi en même temps pour le spectre de l'autisme, les handicapés physiques et intellectuels. Puis moi, aussi là, l'année passée, là, j'ai gravi le Kilimanjaro en vélo de montagne.
Ah mon Dieu, donc, wow!
Toujours de la même manière avec des vélos avec un vélo à main?
Un vélo à main, mais c'est complètement différent. Ouais. Là, c'est deux roues à l'avant puis une roue à l'arrière. C'est un vélo de montagne. Puis là, mais c'est ça. Puis moi, j'aime ça me nourrir de défis, d'aventures, puis montrer aussi au monde que faut vivre là, chaque jour comme ça soit comme ça serait le dernier. Parce que pendant la traversée du Canada, c'est pas toujours évident. Hein? On fait des routes proches de 200 km en une journée, qu'il faut que tu sois fort mentalement. Puis, il faisait froid, il mouillait, des fois il faisait zéro. Fait que fallait que tu sois vraiment préparé mentalement. Mais de l'autre côté, chaque journée, sont jamais pareilles. Hein? Fait que tu te dis, bon, mais demain, mais ça va être une autre journée. Puis c'est ça qu'on fait.
Est-ce que ce qui est le plus dur, c'est le mental ou le physique dans ce genre de traversée, de périple-là?
Ben moi, je pense que c'est les deux. Surtout au début, parce que quand on a monté les rocheuses, là, il y avait beaucoup de montagnes. Des fois, on pouvait monter pendant au-dessus proche de 20-25 km de montée là, sans arrêter, avec un pourcentage de 9 à 10 %
Wow, c'est beaucoup, hein? Oui, les rocheuses, c'est quelque chose à vélo.
Oui, c'est beaucoup. Mais par contre, c'est sûr que psychologiquement, il faut vraiment que tu sois prêt. Puis des fois, c'est sûr que nous autres, on est une équipe. Puis il y en a qui trouvaient ça un petit peu plus dur. Mais après, à force de persévérer, on est rendu ici toute la gang, puis on est vraiment fiers.
Vous avez eu des moments où est-ce que vous vous êtes demandé oh mon Dieu, là, je pense qu'aujourd'hui, là, je commence à en avoir. Je m'en ai à dire plein les mains ou j'en ai plein le dos. Il y a des moments où ça a été plus... où vous avez pensé peut-être à arrêter et à leur prendre le parcours un peu plus loin? Ou...
Non.
Non?
Non, pas moi. Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Sincèrement, je suis quelqu'un qui, quand je pars d'un point A, je me rends au point B. C'est sûr que si j'aurais un accident ou il m'arriverait vraiment une bad luck, que je ne pourrais pas continuer... Mais je me nourris, je suis chanceux, tu sais, je me dis, je suis en santé, je vis vraiment le moment présent. Puis, tu sais, en plus, on roule pour des causes. Puis, quand tu as des moments difficiles, puis que tu penses à l'argent qu'on ramasse pour eux autres, pour leur donner la possibilité de faire du sport, de faire des activités, ça motive énormément. Il y a une journée en Saskatchewan, là, ça nous a pris au-dessus de 14 heures. On est parti à 6 heures le matin. On est arrivé le soir à 10h30 avec un changement d'heure d'une heure. Mm-hmm.
Mais il n'y a pas trop de côtes en Saskatchewan, par contre, M.
Pelletier.
M. Pelletier, hein? C'est assez plat pour y avoir été déjà.
Oui, mais c'est on venteux. Avait le vent dans le visage pendant 191 km à 40 km/h.
Oui, c'est sûr que ça peut être un peu troublant à la longue. Juste pour vous dire quand même, je ne vais pas vous enlever du mérite ou du crédit, M. Pelletier, mais vous n'êtes pas tout seul dans tout ça. Il y a des gens qui vous accompagnent également tout au long du parcours.
Effectivement, moi, ma blonde, elle m'accompagne. Mais il y a aussi là mes amis qui m'accompagnent, mon président d'honneur qui est Michel Dallaire, qui m'accompagne du groupe Dallaire. Il y a Jamel Lemieux aussi, parce que moi j'amasse des sous aussi pour le Patro Camador et Adaptavie.
Ça, c'est dans la région de Québec, hein, le Patro Camador, si je ne m'abuse.
Ouf, c'est ça, oui. Parce que là, le directeur général, il roule avec nous. Et aussi, j'ai des amis, là, plus les personnes qui font la nourriture, les communications, la logistique. Fait que, on a vraiment une belle équipe, puis on traverse toute la gang ensemble, puis on va se rendre à l'autre bout de toute la gang ensemble.
Moi, je suis curieuse, là. J'adore faire le vélo. Je pense que lui aussi, à côté de moi, on est deux amateurs de vélo, mais les plus beaux paysages, les parcours les plus intéressants pour les amateurs comme nous, là, qui ne vont pas vouloir faire traverser le Grand Canada au complet, mais les places, là, les spots les plus délicieux là, visuellement ou de façon intéressante à voir les gens, le paysage, ça serait quoi vos...
Ben c'est beaucoup les Rocheuses, aussi la vallée de Conaghan, dans ce coin-là, aussi Revelstoke, Golden, avant d'arriver au lac Louise. C'est vraiment là, vraiment extraordinaire. Tu sais, on roule puis les montagnes sont devant nous, tu vois la neige en haut. Ouais. Ben, moi j'aime beaucoup ça. Mais même aussi dans les plaines, j'aimais ça parce que ça a un autre cachet. Même si c'est plate, ben pas plate, en voulant dire c'est plate, mais tu sais, c'est plat. tu sais, c'est beau, moi, ça me fait penser un peu des fois à du western. Puis
les champs de blé et de canola à perte de vue, ça peut être de très beaux paysages aussi. Là.
Très beau, c'est vrai. Effectivement, c'est vraiment des beaux paysages. Fait que, ça, c'était vraiment là, mes coups de cœur. Puis là, mais là, là, présentement, là, on est entre Saint-Jean-sur-Richelieu puis Granby. Là, je suis après roulé pour avec la randonnée de Jimmy Pelletier, 80 cyclistes qui m'accompagnent. Fait que on roule pendant 5 jours. C'est le fun parce que ça fait une très belle. Tu sais, ça te donne encore un autre gros boost pour finir là, la traversée avec la gang. Puis on vit vraiment des beaux moments. Puis je suis bien content de vous partager ça, là, ce que je vis, ce qu'on vit aussi. Puis c'est pour ça que j'encourage le monde là, à nous suivre là, via notre site internet, là, jimmypelletiercanada2019.com. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que nous autres, on vend des kilomètres aussi. Hein, c'est 25 $ du kilomètre que le monde peut s'acheter un kilomètre ou plusieurs. Puis quand je pars sur leurs kilomètres qu'ils vont avoir acheté, mais ils vont recevoir un texto en direct. Fait que je roule avec un petit satellite sur mon vélo.
Mais je vous écoute parler, puis ça me fait et penser à Terry Fox, et aussi, bizarrement, dans le film là, avec Tom Hanks, là, quand il traverse le pays plusieurs fois, puis qu'il y a des personnes derrière qui se joignent à eux pour le suivre. Si nous, on veut vous acclamer sur le bord des routes ou vous suivre et aller vous voir et vous encourager, parce que là, vous êtes entre Québec et pour 5 jours, là, pour la 5e édition de la randonnée. Donc, rapidement, vous allez traverser quelle ville pour vous rendre où là, dans les prochaines journées? Juste pour pouvoir aller vous voir sur le chemin.
OK. Présentement, mais là, on s'en va à Granby. Ça veut dire qu'on va arriver dans le milieu de l'après-midi. Par la suite, on reste, on dort là 2 soirs. On fait le tour du Mont Offord. Ou le lac Malfré-Magog.
Oui, dans les cantons de l'Est.
C'est ça, les cantons de l'Est. Après, on revient à Granby, puis après, on va à Victoriaville, Sainte-Marie-de-Beauce, puis on finit là dans la région de Québec, au Patro Camado.
Où vous allez être accueilli comme un héros, je présume.
Oh! Yeah, je pense que c'est toute la gang, là. J'aime pas... je suis bien content de ce que je fais, mais moi, je suis vraiment un gars d'équipe, hein. Fait que je serais pas capable d'arriver là et dire « Ah non, regarde, moi, c'est moi qui ai fait ça tout seul. » Là, tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis effectivement, oui, j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui vienne nous accueillir. Puis que ils nous klaxonnent quand ils passent à côté de nous autres. Là. Depuis qu'on est parti, on a reçu beaucoup de klaxons. Donc,
on le fera. Je vous souhaite une bonne continuité. La fin de votre périple avec le plus beau de temps ensoleillé. Et puis, on regardera ça sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous suivre. Puis on espère pouvoir que certains puissent aller vous acclamer sur le coin des rues. Je vous remercie, M. Pelletier.
Mais ça me fait extrêmement plaisir. Puis merci de m'avoir accueilli là, sur vos ondes.
Allez, bonne route.
Merci. Bye-bye.
Restez des nôtres, puisque dans la dernière demi-heure de l'émission, on va recevoir Emmanuel Robitaille qui va nous parler d'ésotérisme, de spiritualité et de pensée positive dans sa chronique du jeudi. Et cette semaine, comment penser avec sagesse?
Et puis on continue avec Clotilde Seille, donc qui nous fera une chronique du livre audio pour cet été. Donc, quoi écouter cet été? Alors, Clotilde, l'animatrice de l'émission des livres pleins oreilles, alors elle aura deux suggestions d'écoute. La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso et Blanc mortel de Robert Galbraith. Alors, on vous invite à rester des nôtres pour en apprendre plus sur ces livres.
Alors, c'est Louis Garon et Annick Filion qui vous accompagnent jusqu'à midi.
Vous écoutez Aime l'été.
Ce que vous venez d'entendre, c'est Flipside de la chanteuse Norah Jones qui sera ce soir en spectacle à la salle Wilfrid de Pelletier de la Place des Arts à l'occasion du Festival international, de jazz de Montréal qui a pris son envol hier soir. Annick, comme à chaque jeudi, nous allons parler de spiritualité, d'ésotérisme et pensée positive en compagnie de l'animatrice Emmanuelle Robitaille qui est avec nous. Bonjour Emmanuelle.
Salut Louis, comment ça va?
Ça va très bien. Alors, comment penser avec sagesse, ça, c'est votre sujet aujourd'hui. Alors, c'est un sujet quand même assez complexe.
Ben, complexe, oui et non. Et on sait que la... On le sait peut-être pas, mais je vous l'annonce à tous. La spiritualité, ouais. L'ésotérisme, la pensée positive, ce sont des courants de pensée qui prennent de plus en plus d'ampleur, ouais. Même sur le plan scientifique, métaphysique, physique quantique, etc. Et personnellement, c'est un sujet qui me passionne. Et tu l'as bien dit, Louis, la sagesse. Mm-hmm.
La sagesse, qu'est-ce que la sagesse? Hein? Pour bien des gens, la sagesse, on sait un peu ce que c'est, mais définir ça...
C'est pas clair.
Non, c'est pas clair pour bien des gens.
C'est pas clair. Et moi, j'ai été la première à me poser la question, mais qu'est-ce que la sagesse? Et on a tous, et je dis on a tous, je m'inclus là-dedans, et je sais pas si tu partageras cette image avec moi, mais de cet archétype... du vieux sage, de la barbe
blanche,
ou du moine tibétain qui est dans une grotte, ça fait 35 ans, en train de méditer.
Qui a toujours le mot juste, garde son calme.
Et surtout qui vit de silence.
Oui. Ben ça, c'est difficile pour vous, vivre de silence, Emmanuel.
Aucunement. Tu ris, mais je médite tous les jours. Okay. Hein, donc, mais j'ai des moments, mais je suis assez loquace.
Okay. On l'a remarqué.
C'est une de mes plus grandes qualités.
Ben écoutez, hein, il n'y a personne qui va s'en plaindre.
Absolument pas. Et oui, l'archétype du sage, je dirais que dans tout ce qui est spiritualité, c'est assez présent. Il y a lieu de se poser c'est quoi réellement la sagesse au-delà des préconceptualisations qu'on a. Et c'est le site Psychomédia qui existe depuis 22 ans qui nous propose deux biais fort intéressants sur la sagesse. C'est le psychologue Jeffrey Dean Webster qui a proposé en 2003 cinq dimensions de la sagesse. Parce que, comme tu l'as si bien nommé en début de chronique, en début de segment, comment penser avec sagesse? Ça serait intéressant avant de savoir comment penser avec sagesse. Qu'est-ce que la sagesse?
Et la sagesse, comme vous dites, il y a cinq composantes essentielles dans la sagesse que vous allez nous présenter aujourd'hui.
Exactement. Donc, les cinq composantes que ce psychologue a découvert sont les suivantes. Tout d'abord, la sagesse serait composée de l'expérience. Il y a une expression qui dit... Les mots n'enseignent pas, ce n'est que par l'expérience qu'on apprend. Donc, la nature des expériences est importante. On ne parle pas d'aller dans un manège à ronde, même si c'est super le fun.
Oui. Ça ne dure pas longtemps comme expérience.
Oui, c'est... Mais les expériences qui forgeraient la sagesse, on parle surtout des transitions, des choix de vie difficiles, des événements qui nous montrent les côtés négatifs des choses. On parle de la malhonnêteté des gens, de l'injustice, ça forge et c'est loin d'être en lien avec l'âge, l'expérience. Donc, l'expérience serait la première dimension ou composante de la sagesse.
Qu'on acquiert souvent en allant hors des sentiers battus, en sortant de sa zone de confort.
Et des fois, la vie nous invite par elle-même à le faire. Des fois, ce n'est pas très volontaire.
La deuxième, on parle de régulation émotionnelle.
La régulation émotionnelle. Qui dit régulation émotionnelle, oui, qu'est-ce qui te vient en tête?
Ben, on dit quand même une certaine stabilité.
Gérer.
Oui, gérer, de ne pas avoir trop de haut et trop de bas. Hein?
Bon. Eh bien, on ne parle pas juste de savoir gérer ses émotions. Dans cette composante-là, du moins selon ce psychologue, c'est s'exposer et savoir être ouvert à un large spectre d'émotions. Au contraire de ce que l'on pense, tant positive qu'émotive. Savoir distinguer également des émotions qui sont subtiles, des émotions mixtes. Tout ce qui n'est pas clair, parce qu'il y a des sous-émotions, il y a énormément d'émotions.
Quand vous parlez d'émotions mixtes ou subtiles, qu'est-ce qu'on veut dire plus précisément?
Bien, souvent, on va se dire « je suis fâché
».
Mais au final, je me sens trahi, honteux. Il y a des sous-catégories qui sont beaucoup plus « je vis du désarroi ». On se comprend qu'on est loin de la joie, de la peine, de la colère.
Oui.
On se comprend. Donc, d'aller dans ces subtilités-là, c'est intéressant.
C'est d'identifier l'émotion, si je comprends.
Exactement. Et l'utilisation également constructive des émotions. Donc, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle au sens large. Numéro 3.
Oui.
La réminiscence et la réflexivité.
Ben, félicitations, parce que c'est pas deux mots faciles à prononcer.
Merci. C'est un exercice d'élocution. Une capacité à évaluer, le passé et le présent pour bien se comprendre dans son identité. Ses points forts, ses points à améliorer, comment mieux résoudre les problèmes. Finalement, c'est une capacité d'introspection, de rétrospection, de révision de notre jour. Tu sais, le soir, on se couche des fois, là. D'avoir une vision juste de ce qui s'est passé, de ce qui se passe maintenant, d'être réaliste de qui l'on est, de ce qu'on fait. Ça fait partie de la sagesse. Point 4, l'ouverture, bien sûr, à des idées, des informations, des solutions alternatives auxquelles on n'avait pas pensé. Ça fait partie d'une capacité à être sage. C'est sage de savoir s'ouvrir à autre chose que ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
Et tu as montré également flexible, quelque peu aussi, dans ses idées préconçues. Souvent, on a beaucoup d'idées préconçues, des préjugés, et c'est important de les affronter puis de voir si ces préjugés-là... sont justifiés.
Et tu vas comprendre rapidement comment ça se relie à comment penser avec sagesse. Je te le dis dans quelques instants. Oui. Le point 5, tout d'abord, et c'est un point auquel on peut ne pas penser
il
d'emblée.
Il ne faut pas le sous-estimer.
L'humour.
Oui.
La sagesse et les sages ont énormément d'humour, de légèreté également. Hein? On parle qu'ils l'utilisent et l'apprécient. Donc, sa propre humour, mais apprécient celle des autres également.
Ça sert souvent à désamorcer l'humour, des situations qui peuvent être un peu tendues.
Dédramatiser, relativiser aussi. Également, c'est assez sage la plupart du temps. Maintenant, comment utiliser ces composantes-là pour penser avec sagesse?
Parce que c'est un peu l'objectif de votre chronique d'aujourd'hui.
Bon, c'était tout ça. C'est la sagesse, finalement. Ouais. C'est Grossman et ses collègues qui ont identifié 4 caractéristiques clés d'un raisonnement sage. On parle de l'humilité intellectuelle ou la reconnaissance des limites de ses propres connaissances. Et ça, c'est pas tout le monde!
Non, en effet, c'est pas tout le monde qui a cette humilité.
Socrate dit « connais-toi toi-même » et tout ce que je sais, je sais pas si c'est Socrate qui a dit ça, mais ce que je dis, c'est « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ça pourrait être une façon de réfléchir qui est sage. L'appréciation de perspectives plus larges que le problème en cause. Des fois, on voit pas plus loin que le bout de son nez, là. Se tasser un petit peu du bord de la porte et se dire peut-être qu'il y a une fenêtre à côté, il y a une poignée, peut-être qu'il y a d'autres portes aussi.
Il y a des alternatives, et souvent, lorsqu'on est en colère ou en moment de panique, on a de la misère à y voir.
Donc, se rendre compte qu'il y a des fois peut-être un petit peu, des choses qu'on ne voit pas qui sont un petit peu plus grandes que le bout de notre nez. Exactement. En troisième position, bien sûr, comment penser sagement, la sensibilité à la possibilité de changement dans les relations sociales. L'humain a tendance à être très statique, ne pas aimer le changement. Et quand quelqu'un doit sortir de notre vie, quand les relations changent, bien, accepter que ça fluctue, c'est sage. Let go.
Le lâcher prise.
Entre autres, mais ça s'applique dans les relations sociales également. Tout ce qui est toxique, tout ce qui doit être de passage, laisser de passage, ce qui est permanent et impermanent. Bref, accepter que ça peut fluctuer. Et finalement, le compromis ou l'intégration de différentes opinions, c'est à la base, bien sûr, d'une ouverture d'esprit qu'on a nommée tout à l'heure. Et la meilleure façon de s'assurer qu'on pense sagement dans une situation, c'est de se sortir de son point de vue individuel. Tantôt, on a dit...
Sortir d'un peu de son nombril également.
Exactement. Prendre la position d'un tiers, la position de l'observateur, et c'est ce qu'on fait en méditation. Sortir de notre perspective individuelle, de se mettre en observateur de ce qui se passe, et souvent de faire comme si ce qui nous arrivait à un ami, ça nous permet de se sortir et d'être beaucoup plus à même d'avoir des choses sages qui ressortent.
Le fameux recul.
Voilà.
Bien, merci beaucoup, Emmanuel
Grand
Robitaille,
plaisir.
Pour tous ces bons conseils et allez sagement. Mais... Tears in Heaven de Eric Clapton. C'est pas nécessairement le nouveau jingle de Clotilde Say, c'est la chanson qui la suit cette semaine à M l'été. Bonjour Clotilde Say.
Salut les amis, comment allons-nous?
Il fait beau, il fait chaud.
Ah bah bien. Oui, oui, non, mais bonjour, oui, parce que là, tu vas... Ah, d'accord, ok.
Non, mais ça va super
donc,
bien.
Donc, fallait que je parte comme ça, direct.
Non, mais ça va super bien. Non, il ne faut pas que vous partiez, on vous accompagne, on est pour vous accompagner, oui. Clotilde, ne vous inquiétez pas.
D'accord, non, je ne suis pas inquiète, moi.
Alors, bien sûr,
Qu'est-ce que vous attendez de moi?
Ben, on attend beaucoup de choses.
On parle de livres audio, Clotilde, oui. Et puis on a oublié de mentionner tout à l'heure que l'extrait que j'ai lu, le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, est disponible donc gratuitement à la BANQ.
Oui, c'est ça.
Et aussi sur Audible. Il y a moyen avec sa
Et c'est un coup de peau parce qu'il n'y en a pas énormément qui sont disponibles en audio à BANQ, sauf les livres adaptés que nous enregistrons, entre autres, chez nous. Mais il y en a quelques-uns. Ce sont beaucoup des livres qui viennent de France. Et puis maintenant, tous ceux qu'on enregistre, évidemment, se retrouvent là. Mais je suis surprise de voir qu'il existe aussi en audio. Ouais,
je ne suis pas la seule qui l'a aimé, ce livre, alors. Hein?
Non, je le connais.
Il y a eu de la...
Oui,
pour que ça soit là.
Ben oui, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est important de le dire.
Mais
quoi,
je ne vais pas créer trop d'attente auprès de nos auditeurs. Oui. Ce ne sera pas Annick Fillion qui lit malheureusement le...
Oui, c'est important de le dire.
C'est important parce que si les gens s'attendent à le même résultat qu'on a eu précédemment à l'émission, et qu'ils risquent peut-être d'être déçus.
Mais je vous rassure, c'est Dominique Pignon qui est un comédien exceptionnel en France. Qui est l'égérie de, comment il s'appelle, Jean-Pierre Jeunet.
Ah bah tiens.
Il joue dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Alors, Dominique Pignon. Et moi, je viens vous parler de livres d'été qui sont disponibles notamment via des gens qu'on aime bien. Ouais. C'est audiolib.fr qui font la même chose que Vues et Voix. Ils font des livres audio. Eux, ils les enregistrent. Tout est enregistré en France, mais avec les plateformes maintenant, tout est disponible partout autour de la planète. Et ces gens-là font très, très bien leur métier. Et régulièrement, ils nous recommandent comme ça des livres. Et comme moi, j'ai toujours une oreille sur tout ce qui se fait dans le domaine audio, puisque j'anime l'émission des livres plein les oreilles, qui est en repos cet été. Mais ça me fait plaisir de venir quand même à cette émission pour vous présenter quelques livres audio. J'avais décidé de vous en présenter deux aujourd'hui. D'abord, « La vie secrète des écrivains » de Guillaume Musso. Bon, OK, c'est pas un... parmi ceux qui a besoin le plus de publicité. Mais d'un autre côté, savoir que ça existe en audio, c'est peut-être une autre expérience de découvrir Guillaume Musso que par imprimé. Alors, en préambule au résumé de ce livre-là, on nous dit que tout le monde a trois vies, une vie privée, une vie publique et une vie secrète. Qui a dit ça? C'est Gabriel Garcia Marquez. Je n'en savais absolument rien non plus. Alors, en 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, on le sait, le célèbre... Ah non, là, on ne parle plus du tout. Là,
C'est le roman, et après, qui a été fait en 2004.
Alors, on est avec un célèbre écrivain et on est dans le livre de Guillaume Musso. L'écrivain s'appelle Nathan Falls et il annonce qu'il arrête d'écrire. Il se retire à Beaumont, qui est une île sauvage absolument sublime, au large de la Méditerranée, après tout. On peut faire moche quand on peut faire beau. Et là, on se retrouve en automne 2018. Falls n'a plus donné une seule interview depuis 20 ans, alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, d'ailleurs. Et il y a une jeune Suisse, une journaliste suisse, qui s'appelle Mathilde Monnier, qui débarque sur l'île, et elle est bien décidée à percer le secret de ce bonhomme qui a décidé du jour au lendemain de ne plus jamais écrire un livre. Le même jour où elle débarque, figurez-vous qu'on découvre un corps de femme découvert sur une plage, et l'île en question, absolument sublime, est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face-à-face où se heurtent, nous dit-on dans le résumé, vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur. C'est une lecture inoubliable, nous dit-on, un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque l'auteur y place sa dernière pièce. Dans Le Devoir, je ne sais pas qui avait écrit « Sous le vernis du suspense efficace, le livre de Guillaume Musso est notamment une forme d'hommage léger à la littérature. Dans La Libre Belgique, on avait écrit au sujet de ce livre un thriller efficace, mais pas de la grande littérature. Et dans L'Express, on signait ce titre. Ce nouveau roman semble assurément le plus personnel et le plus abouti de l'auteur à succès. » On va se faire une petite idée peut-être de ce livre qui était lu par... Je ne l'ai pas sur ma recherche, mais vous devez l'avoir sur votre feuille.
Oui, c'est Rémi Bichet.
Alors, écoutons la voix de ce monsieur.
coup de vent soudain prolongea une vague jusqu'à mon promontoire. Pour l'éviter, j'escaladai un autre groupe de rochers, ce qui me rapprocha encore de l'écrivain. Il tenait de nouveau son fusil à pompe coincé sous son épaule. Un Remington Wingmaster à double bras coulissant, comme on en voyait parfois dans les vieux films, même si celui-ci était profilé en fusil de chasse. « Tu t'appelles comment, déjà ?» demanda-t-il lorsque la vague fut passée.
« Raphaël. Raphaël Bataille. »
« Et tu as quel âge ?»«
24 ans. »«
Depuis quand veux-tu écrire ?»«
Depuis toujours. Y a que ça qui m'intéresse. »
Profitant de ce que j'avais son attention, je me lançai dans un monologue pour expliquer combien, depuis l'enfance, la lecture et l'écriture avaient été mes bouées de sauvetage pour endurer la médiocrité et l'absurdité du monde, combien, grâce au livre, je m'étais bâti une citadelle intérieure qui...
« Tu vas aligner les clichés pendant longtemps ?»
interrompit-il.
« Ce ne sont pas des clichés !»
protestai-je, vexé, en rangeant mon manuscrit dans le sac à dos.
« Si j'avais ton âge aujourd'hui, j'aurais d'autres ambitions que de vouloir devenir écrivain.
Pourquoi ?
Parce qu'à l'existence d'un écrivain est le truc le moins glamour du monde. »
soupira Fawlce.
Tu mènes une vie de zombie, solitaire et coupé des autres. Tu restes toute la journée en pyjama à t'abîmer les yeux devant un écran en bouffant de la pizza froide et en parlant à des personnages imaginaires qui finissent par te rendre fou. Tu passes tes nuits à suer sang et eau pour torcher une phrase que les trois quarts de tes maigres lecteurs ne remarqueront même pas. C'est ça, être écrivain.
Ça donne pas envie d'être écrivain, cette définition, mais tellement juste.
Ouais, et la voix que vous entendiez était celle de Rémi Bichet, oui. Hein, qui faisait la narration de la vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Et juste pour revenir rapidement sur l'écrivain français, vous en parliez lors des critiques. Hein. Oui. C'est un auteur qui vend le plus de... C'est l'auteur qui vend le plus de livres présentement en France. Et on sent déjà que c'était difficile d'avoir...
Avec Marc Lévy. Hein,
avec Marc Lévy. Et Marc Lévy également est critique.
Avec Emmanuel Schmitt aussi. Et voilà, ces trois-là.
Et c'est dur de faire l'unanimité aussi bien la critique que chez la... Lorsqu'on est trop populaire, bien la critique tend de nous rabaisser et vice-versa lorsqu'on n'est pas assez populaire, mais malheureusement.
Je suis tellement d'accord.
C'est comment expliquer ce phénomène, Clotilde?
La jalousie. Vous savez, il y a très, très peu d'auteurs, finalement, qui vivent de leur plume, que ce soit en Europe ou ici. Ici, ils sont une poignée à vivre de leur plume. Ils ont tous des jobs à côté. Ils sont tous professeurs, ou ils sont tous... En tout cas, c'est évident, vivre de sa plume, c'est ça. Il faut s'appeler Michel Tremblay, il faut s'appeler... j'allais dire Marie Laberge, encore que.
Ouais.
Christine Brouillet, peut-être. Mais voilà, quoi, quelques noms comme ça. Mais c'est la même chose en Europe. Hein. Il y en a beaucoup plus qui crèvent de faim. Puis d'ailleurs, c'est très bien dit cette phrase où il dit à la fin de l'extrait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il dit à ce jeune qui rêve de devenir écrivain, il lui dit, tu sais, tu vas passer des nuits à retravailler sur une phrase que même le plus imbécile ou je ne sais plus de tes lecteurs ne remarquera même pas la qualité. Quoi. Et c'est un métier.
C'est la beauté de la chose quand même.
Alors moi, je pense que le succès, ça en fatigue toujours beaucoup. Et c'est pour ça que Guillaume Musso, Marc Lévy et compagnie sont des gens qui fatiguent l'intelligentsia littéraire. Il y en a quand même, comme des Amélie Nothomb et compagnie, qui j'imagine gagnent bien leur vie, mais c'est plus rare. C'est plus rare.
Ce qui nous amène au prochain livre, oui! Clotilde, parce qu'on parle de gens populaires. Et là, on parle d'un livre qui a été écrit par quelqu'un, par un nom de plume. Alors, c'est donc Blanc mortel de Robert Galbraith.
Oui.
Mais c'est écrit, en fait, par quelqu'un de très populaire.
Exactement.
Je vous laisse la dévoiler.
Et c'est très, très drôle. C'est Madame J.K. Rowling, voilà. À qui l'on doit Harry Potter. Et vous savez comment ça a été révélé? Ça, en fait, c'est une indiscrétion. Dans le Sunday Times, en juillet 2013, personne n'était censé savoir qui se cachait derrière la plume de Monsieur Galbraith, dont vous avez tellement bien dit le nom.
Galbraith, oui.
Mais, et voilà, donc c'est en fait écrit par J.K. Rowling. Et c'est une série, hein. C'est une série qui s'appelle Cormoran Strike. Et ce livre dont je veux vous parler, Blanc mortel, c'est le petit dernier de la série.
C'est le quatrième.
C'est le quatrième, voilà. Exactement. On peut tous les retrouver en version audio, toujours chez audiolibre.fr, mais sûrement aussi sur d'autres plateformes, parce que souvent, c'est pas parce qu'ils sont lus chez tel organisme qu'ils sont qu'on ne les retrouve pas partout. C'est un petit peu comme chez nous, il y a des bouquins qu'on retrouve chez Apple Books, etc. Mm-hmm. Et c'est tant mieux comme ça. Chacun va vers son fournisseur préféré. Oui. Et là, il s'agit de Audiolib. Alors, un petit résumé, on est avec Billy. Billy est un jeune homme assez perturbé qui vient demander l'aide du détective privé Cormoran Strike, là, qui a donné le nom à cette série. Et il aimerait que M. Strike enquête sur un crime dont il pense avoir été témoin durant son enfance. Ce qui laisse un petit peu Strike perplexe. Ce Billy, de toute évidence, est psychologiquement instable. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est un jeune garçon qui ne parvient pas à se souvenir. Il est un petit peu confus, tout ça. Mais il semble sincère, il semble crédible dans son histoire. Avant que Strike ne tente de l'interroger, Billy, complètement paniqué par la situation, finalement de se retrouver devant ce type qu'il croit à peu près alors qu'il se mélange les pinceaux, parvient à s'enfuir. Et le Strike décide de percer le mystère de cette histoire racontée par Billy. Et voilà, donc il va engager une ancienne assistante à lui. C'est une enquête, un vrai labyrinthe apparemment, une fois de plus, parce qu'avec Madame Rowling, ce n'est jamais simple. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune garçon? De quoi a-t-il été témoin? Quelle est cette histoire que Madame Rowling nous raconte? Eh bien, c'est un nouveau livre audio et je vous en propose un extrait.
Après la capture de l'éventreur de Shacklewell, Strike avait craint pendant des semaines que sa réussite, la plus retentissante de sa carrière, ne porte un coup fatal à son agence de détective. Les deux affaires précédentes lui avaient valu un certain battage médiatique, mais ce n'était rien comparé à la catastrophe qui menaçait à présent de s'abattre sur lui, en détruisant tout ce qu'il avait patiemment construit. La viabilité de l'agence pour laquelle il avait tant œuvré, tant sacrifié, reposait en grande partie sur la discrétion. Strike devait pouvoir arpenter les rues de Londres sans craindre d'être reconnu. Or, après la capture du tueur en série, la conscience populaire s'était emparée de la figure du talentueux détective, faisant de lui un être hors norme, un sujet de débat télévisé, bref, un objet de curiosité d'autant plus attirant qu'il refusait de se prêter au jeu des médias.
Wow, un beau roman policier, comme on les aime pour l'été. Oui,
avec une belle voix graveleuse comme ça. Quasiment tous les hommes français qui lisent ont cette espèce de voix.
C'est des belles suggestions, Clotilde.
Mais ça me fait plaisir si ça
comme
vous donne envie.
Hein, oui.
Ouais, comme ça vous donne envie de les lire. Oui. Écoutez, tant mieux, je reviendrai comme ça à l'occasion. Vous parlez notamment de lecture enregistrée chez nous, chez Vues et Voix quand même. Oui. Est-ce que je peux prendre 10 secondes pour préciser
allez-y.
Que livreaudio.vuesetvoix.com, c'est le nom du site et de la plateforme de Vues et Voix pour aller se procurer des livres audio que nous enregistrons ici.
Clotilde Seil, merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Merci. Maintenant.
C'est pratiquement la fin de cette édition du jeudi 27 juin de M l'été. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier premièrement Annick Fillion qui est co-animée avec moi. Merci beaucoup, Annick.
Merci, Louis Garon.
Oui, ben merci. Tous nos invités qui ont été nombreux également. Je tiens à remercier Claire Guérin qui était recherchiste à l'émission ainsi que Christiane Campagna. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et également, il ne faudrait pas oublier... Annick,
Mathieu Tessier, le metteur en onde.
Ben
merci,
oui.
Mathieu.
C'est le héros obscur. Ben, bonne journée.